VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du vendredi 29 juin 2018. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Le Conseil de sécurité de l'ONU renouvelle pour un an la mission des casques bleus au Mali.
Au Nigeria, des arrestations annoncées par l'armée en rapport avec les massacres du week-end dernier dans le centre du pays.
En Libye, le maréchal Khalifa Haftar a annoncé hier la libération de Derna, bastion des islamistes radicaux.
À Bruxelles, les Européens ont fini par trouver un accord sur les migrations lors d'un sommet tendu que l'Italie menaçait de faire capoter.
Ici aux États-Unis, nouvelle fusillade qui a fait 5 morts hier à Annapolis, capitale du Maryland, à 1 heure de route de Washington.
Le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine auront leur premier sommet officiel le 16 juillet à Helsinki.
Et ne manquez pas notre journal de la Coupe du Monde avec l'élimination du Sénégal.
Pour l'instant, l'actualité en Afrique et ailleurs dans le monde.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé hier à l'unanimité et pour un an la mission des casques bleus au Mali. L'ONU a aussi appelé les parties maliennes à faire des progrès rapides dans le processus de paix. Eric Manirakidza.
L'ambassadeur adjoint des États-Unis auprès de l'ONU a averti que cette mission ne restera pas pour toujours au Mali. Jonathan Cohen a précisé que cette résolution est claire sur le fait que le Conseil de sécurité ne peut plus accepter de retard dans le processus de paix. L'ambassadeur français à l'ONU a abondé dans le même sens, indiquant que ce renouvellement n'est pas comme les précédents. François Delattre a précisé que le texte est accompagné d'un message fort sur la nécessité de progrès substantiels dans le processus de paix. La résolution rédigée par la France insiste aussi sur la présidentielle du 29 juillet que l'ONU espère un scrutin inclusif, libre, juste, transparent et crédible. En revanche, le texte souligne l'impatience du Conseil de sécurité face au retard persistant dans l'application entière de l'accord de paix de 2015. La MINUSMA compte quelque 15 000 casques bleus. C'est l'une des missions les plus meurtrières de l'ONU depuis son déploiement en 2013. Plus d'une centaine de casques bleus ont été tués au Mali.
L'armée nigériane a déclaré hier avoir arrêté des suspects en rapport avec les massacres le week-end dernier de plus de 200 personnes dans le centre du Nigeria. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Le commandant Adam Ouma, porte-parole de l'armée, a déclaré que 17 personnes ont été arrêtées, dont 3 liées à des meurtres dans des villages de la région de Barikine, l'a dit. Selon lui, 14 autres sont connectés aux attaques contre des Peuls sur la route au sud de Jos, la capitale de l'état du plateau. Les circonstances de ces massacres restent floues, de même que l'identité des assaillants. Un renfort policier et militaire a été mis en place et un couvre-feu est en vigueur dans certaines zones. Le président Muhammadu Buhari, candidat à sa propre succession, s'est rendu sur place pour appeler au calme. Amnesty International indique que depuis le début de l'année, au moins 1813 personnes ont été massacrées dans 17 États du Nigeria. Ce bilan comprend les tueries entre les éleveurs peuls musulmans et agriculteurs chrétiens, les attaques de Boko Haram, mais aussi des actes de banditisme. Human Rights Watch accuse directement le président Buhari de ne pas être parvenu à endiguer les violences.
Au Maroc, le journaliste Hamid Al-Madawi a été condamné hier à 3 ans de prison pour, je cite, « non-dénonciation d'une tentative de nuire à la sécurité intérieure de l'État ». Il avait été arrêté en juillet dernier dans la ville septentrionale d'Al-Hoseima pendant qu'il couvrait un rassemblement du mouvement populaire du Hirak qui a agité la province du Rif en 2016-2017. Hamid Al-Madawi a été jugé pour avoir reçu un appel d'un Marocain résidant aux Pays-Bas évoquant des armes destinées au Hirak et de n'avoir pas alerté la police. Un appel qu'il n'avait pas pris au sérieux s'est-il défendu.
L'homme fort de l'Est libyen, Khalifa Haftar, a annoncé hier soir la libération de Derna, bastion d'une coalition hétéroclite de milices islamistes et de djihadistes, hostiles à la fois à Haftar et au groupe État islamique. C'est la seule ville de cette région qui échappait encore à son contrôle. Haftar soutient un gouvernement parallèle qui exerce son pouvoir dans l'Est libyen et qui conteste l'autorité du gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale et basé à Tripoli.
Le président érythréen Isaias Afewerki et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed devraient se rencontrer dans de brefs délais. C'est une nouvelle étape vers le dégel des relations entre leurs deux pays, Claire Morin-Gibourg.
Cela fait près de 20 ans que les chefs d'État de ces deux voisins ne se sont pas rencontrés. La visite de la délégation érythréenne a établi un terrain fertile pour la restauration de la paix entre les deux pays, a indiqué la radio-télévision Fana, proche du pouvoir éthiopien, qui ne précise cependant pas le lieu ni la date de cette rencontre. Une délégation érythréenne, composée notamment du ministre des Affaires étrangères, a terminé hier une visite historique de 3 jours à Addis Abeba. La compagnie Ethiopian Airlines devrait reprendre ses vols en direction de l'Érythrée. L'Éthiopie et l'Érythrée se sont livrés de 1998 à 2000, une guerre meurtrière qui a fait quelque 80 000 morts.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Nouvelle fusillade ici aux États-Unis. Un homme a délibérément ouvert le feu hier dans la salle de rédaction d'un journal à Annapolis, la capitale de l'État du Maryland, tuant 5 personnes et blessant 2 autres. La fusillade est une attaque ciblée contre le Capitol Gazette, a déclaré un responsable de la police locale, ajoutant que le quotidien avait reçu des menaces sur les réseaux sociaux. Le suspect est un adulte blanc qui approche la quarantaine, a dit la police. Selon plusieurs médias américains, il s'agit de Gerald Ramos, un habitant du Maryland de 38 ans. Certains ont indiqué qu'il avait poursuivi en justice le journal.
Le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine auront leur premier sommet officiel le 16 juillet à Helsinki. La nouvelle a été confirmée par Washington et Moscou un jour après la rencontre en Russie entre le conseiller en matière de sécurité nationale John Bolton et de hauts responsables du Kremlin dont M. Poutine. M. Bolton a dit à la presse qu'il y a, malgré les divergences actuelles, un vaste éventail de questions où les présidents Trump et Poutine pensent pouvoir trouver des solutions constructives et d'ajouter, et j'aimerais entendre quelqu'un me dire que c'est une mauvaise idée.
En attendant ce sommet, le président Trump a continué à démentir les allégations selon lesquelles la Russie s'était ingérée dans la présidentielle de 2016. Il a toujours dénoncé, en la qualifiant de chasse aux sorcières, l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur de possibles rapports entre sa campagne électorale et Moscou. M. Trump a semblé accepter hier, dans un nouveau tweet, les démentis russes de toute ingérence.
États-Unis toujours, l'annonce surprise du départ à la retraite d'Anthony Kennedy, un des 9 juges de la Cour suprême, relance la bataille au Congrès sur la composition de la Haute Cour. Les démocrates minoritaires promettent un combat acharné. Précision d'Irénée Herman Umbo.
En publiant une liste de 25 noms peu après l'annonce du départ du juge Anthony Kennedy, le président Donald Trump a promis que le processus pour nommer un nouveau sage débute immédiatement. Depuis son élection, Donald Trump a proclamé sa préférence pour des juges penchant contre le droit à l'avortement. Et il l'a démontré avec sa première nomination à la Cour suprême, celle du conservateur Neil Gorsuch. Désigné en 1987 par Ronald Reagan, Anthony Kennedy a pendant 30 ans joué un rôle d'arbitre entre 4 juges conservateurs et 4 progressistes. Son vote a été crucial sur le mariage homosexuel, la peine de mort ou le port d'armes. Son remplaçant pourrait avoir un impact sur les lois des États-Unis et les droits de ses citoyens pendant une génération, avertit le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer. Le remplaçant du juge Kennedy viendra modifier totalement l'équilibre à la haute cour.
Le président français Emmanuel Macron a salué l'accord trouvé à 28 sur le dossier migratoire vendredi au petit matin, surmontant ainsi le blocage italien qui récompense selon lui la coopération européenne. M. Macron a fait sa déclaration à la sortie d'un sommet à Bruxelles après 9 heures de tractation sur la gestion de l'accueil des migrants.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Et maintenant le journal de la Coupe du Monde, Nicolas Pinault.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous. On parle bien évidemment ce matin de la terrible désillusion pour le Sénégal hier soir en Russie. Les Lions de la Teranga sont éliminés de ce mondial après une défaite 1-0 face à la Colombie. Un pénalty refusé pour le Sénégal en première mi-temps aura été le tournant de ce match. Sadio Mané filé au but, fauché par Sanchez. L'arbitre indique le point de pénalty avant de se raviser après avoir consulté la vidéo. Le Sénégal est éliminé malgré la défaite du Japon 1-0 face à la Pologne. C'est la différence des cartons jaunes plus nombreux côté sénégalais qui permet aux Nippons de se qualifier pour les 8e de finale.
On va écouter bien évidemment la grande déception d'Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal en conférence de presse.
C'est l'heure du sport. Aujourd'hui, je suis fier de mes garçons. Je suis fier du travail qu'ils ont accompli depuis un mois. Et aujourd'hui, le Sénégal ne se qualifie pas parce qu'il ne le mérite pas. Ainsi va la vie. C'est la règle du jeu. Aujourd'hui, il y a des règles qui ont été établies par la FIFA. Donc, il faut se plier à ça. C'est vrai qu'on aurait aimé peut-être être éliminé d'une autre façon. Mais comme je le dis, c'est dommage. C'est dommage pour ces joueurs-là, c'est dommage pour nous. Et c'est comme ça, voilà. Donc, on le savait depuis le début, mais le Sénégal a un football engagé. Qui dit engagement dit parfois aussi de prendre des cartons. Donc, je trouve que c'est vraiment dommage. Je pense qu'on aurait pu, en première période, marquer un but. Dans le football, vous savez, quand vous avez des temps forts, il faut concrétiser ces temps forts en marquant un but. Et comme je le dis, on n'a pas pu le faire. Je suis déçu surtout pour mon équipe, je suis déçu surtout pour cette génération-là, pour ces joueurs-là qui se battent tous les jours pour notre pays, qui se battent tous les jours pour l'équipe nationale du Sénégal, qui consentit énormément d'efforts. On va continuer à les accompagner, continuer à les encourager, parce que je suis sûr et certain qu'on a de très belles choses qui nous attendent devant nous.
Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal. Au total, les 5 équipes africaines sont éliminées. Mauvaise année pour le foot africain et pour les Sénégalais qui avaient pourtant leur destin entre les mains. Andinsi depuis Samara en Russie. Avec les Lions de la Teranga.
Les Lions de la Teranga avaient commencé à faire rêver non seulement les Sénégalais, mais aussi tous les Africains, surtout après l'élimination précoce des 4 représentants du continent. Mais à l'arrivée, la déception est la chose la mieux partagée. Une défaite amère car elle est synonyme d'élimination. C'est pourquoi, au niveau des supporters sénégalais regroupés au sein du 12e Gaïné et de Alekaza qui ont effectué le déplacement sur le sol russe, la déception était totale. Les mines étaient très tristes. La colère se glissait sur le visage. Certains n'ont pas hésité à laisser couler des larmes en pestant contre les Lions. Ces derniers sont d'ailleurs sortis des vestiaires la tête basse. Ils n'ont pas voulu répondre aux questions des journalistes. Il faut dire que cette déception est une de plus et va certainement faire couler beaucoup d'encre et de salive au pays. Amédine Si, Samara, VOA Afrique.
Merci Amédine, en Russie pour VOA Afrique. Et cette élimination a aussi inspiré notre consultant Jules Valentin-Goué pour son coup de sifflet.
Bonjour. La sortie précoce des représentants africains de la Coupe du Monde 2018 peut déjà permettre de présenter le bilan de l'épopée du continent dans la compétition. Tout le monde se félicitait du casting final après les éliminatoires de la zone Afrique, dans la pléthore de clubs rassurés et la jeunesse talentueuse des deux représentants de l'Afrique subsaharienne était porteuse d'espoir. Les résultats ont été ni figues ni raisins. L'Afrique du Nord a, comme à son habitude, produit un football de qualité, étalant sa technique individuelle et collective, sa culture tactique évidente et malgré des résultats insuffisants, des scores normaux de football en dehors d'une Tunisie qui, face à la Belgique, a fait preuve de laxisme, les ailes de Carthage se sont autorisées d'encaisser 5 buts contre 2, un score anachronique depuis un certain Russie-Cameroun en 1994. Sinon, sans fixation absolue sur son joyau gala, l'Égypte aurait eu ses chances. Avec un arbitrage plus correct, et plus de respect pour l'Iran, le Maroc aurait passé le premier tour, sans doute au détriment d'un des deux favoris de poule, le Portugal et l'Espagne. Tandis que, par manque de conviction, la Tunisie mériterait que la sélection rende des comptes. Par contre, c'est de l'Afrique subsaharienne traditionnellement plus exposée à l'incertitude qu'est venue l'heureuse sensation. Nigérians et Sénégalais sont tombés de justesse, des armes à la main et avec la manière. Par ailleurs, une interprétation plus favorable des ralentis leur aurait ouvert les portes des huitièmes de finale sans que personne ne crie au scandale. L'Odyssée africaine s'arrête à la porte du second tour, mais l'Afrique tient son rang et confirme ses progrès. Il reste juste à ses formations à soigner des détails qui font pencher la balance. À bientôt.
Hier dans le groupe G, la Tunisie a sauvé l'honneur en battant le Panama de 2-1. Ben Youssef et Kasri, buteurs pour les Aigles de Carthage, qui finissent 3e de ce groupe derrière les Anglais battus 1-0 par la Belgique. En 8e de finale, on retrouve donc la Belgique face au Japon et l'Angleterre face à la Colombie. Ce vendredi, aucun match, c'est jour de repos pour le Mondial. Place au premier 8e de finale, ce sera samedi, France-Argentine et Portugal-Uruguay. Voilà, c'est tout pour ce journal de la Coupe du Monde. Prochain point sur le tournoi ce soir sur VOA Afrique. et vous retrouvez toutes les dernières infos, les résultats sur voaafrique.com et notre page Facebook.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. À Angar, dans le centre du Nigeria, les cultivateurs sont en deuil après les massacres qui ont eu lieu le week-end dernier. Plus de 200 personnes ont été tuées dans une dizaine de villages dans des violences entre éleveurs et agriculteurs. Ces conflits récurrents sont principalement fondés sur des questions foncières. Le point avec Dilidiko.
Les violences de samedi dans la région du Plateau sont apparemment des représailles à la mort jeudi dernier de 5 éleveurs peuls tués par des fermiers de l'ethnie Bérom. Selon le gouverneur de l'État du Plateau, Simon Lalongue, ces affrontements auraient causé la mort de plus de 200 personnes. La police nigériane, qui soupçonne les éleveurs, a fait état de 86 morts, mais de nombreuses sources locales, les membres des communautés affectées, avancent un bilan de plus de 100 morts. Les attaquants n'ont pas pu être clairement identifiés. Écoutons Chiro Mayasu, le chef communautaire du village d'Ungar.
Ceux qui sont venus sont des étrangers. Nous ne les connaissons pas.
L'insécurité au Nigeria semble grandissante. Contrairement à la promesse faite par le chef de l'État, Muhammadu Buhari, celle de garantir la sûreté des Nigérians. Après les dernières violences, de nombreuses voix se sont élevées pour exiger le départ du président s'il ne parvenait pas à mettre fin à cette résurgence des violences intercommunautaires. Du côté des populations touchées, l'aide ne semble pas arriver. Mafouak Matouré, un résident d'Ungar, explique avoir tout perdu.
Ceux qui nous ont attaqués ont tout brûlé. Ma maison a été rasée, ils nous ont pillé et pris tout ce qui était viable. Nos motos, nos engrais pour travailler la terre et même ma télé. Nous voulons quitter cet endroit, mais personne ne nous vient en aide.
Pour certains, au vu de la situation, il ne reste plus qu'une chose à faire, partir. Comme l'a fait Paulina Auta, une résidente de Ganarop.
Je pars à cause de ce qui s'est passé il y a quelques jours. Nous étions assis là et tout à coup, nous avons vu débarquer des individus vêtus de noir. Ils ont commencé à tirer.
Désormais, la terreur ne semble plus venir uniquement de l'insurrection islamiste de Boko Haram. Les violences interethniques sont aussi à l'origine des effusions de sang. Au Nigeria, le règlement de ce conflit de longue date entre éleveurs et fermiers est devenu un enjeu clé pour les prochaines élections en février.
En Angola, le président João Lourenço a limogé depuis son arrivée au pouvoir beaucoup de proches de son prédécesseur José Eduardo dos Santos. Ainsi, Isabel dos Santos, fils de l'ancien président, a quitté la direction de la Sonangol, la Société Nationale de Pétrole. Idriss Fall a recueilli la réaction d'Isaias Samakuva, président de l'UNITA, le principal parti d'opposition en Angola, qui était hier dans nos studios ici à Washington.
Je ne sais pas si le départ d'Isabel dos Santos et des autres sont un signal de la lutte contre la corruption. Parce que je pense que c'est normal. Quand quelqu'un arrive à certaines places, il a besoin de mettre des gens qu'il connaît bien, dans lesquels il a confiance. Donc d'abord, des changements de personnel, je pense que c'est quelque chose de normal dans ce cas-là. Donc,
si on change le personnel et qu'on est convaincu qu'il y a eu détournement, pourquoi il n'y a pas procès des enfants de Dos Santos, par exemple?
Dans ce cas-là, ce n'est pas même la lutte contre la corruption, c'est peut-être la lutte contre le népotisme. Parce que, en ce que beaucoup de gens disent, la gestion d'Isabel Dos Santos n'était pas quelque chose de négatif. Mais si nous considérons qu'Isabel Dos Santos a été nommée par le père, donc ça, vraiment un signal de népotisme que M. João Lourenço veut aussi combattre.
Mais pourtant, on dit qu'Isabelle dos Santos, c'est la femme la plus riche du continent.
En ce qui concerne la corruption, si nous parlons d'Isabelle dos Santos, il fallait investiguer la source de la richesse d'Isabelle dos Santos. Ça, donc, nous pourrons dire que c'est un signe de la lutte contre la corruption. Parce que si elle est la femme plus riche de l'Afrique, il fallait savoir si la richesse qu'Isabelle dos Santos a est venue des affaires normales et légales ou pas. La loi qui a été faite pour demander que ceux qui ont pris de l'argent, des fonds du pays pour l'étranger, devraient les mener au pays. Cette loi aussi, à notre avis, c'est une loi qui va légaliser simplement le détournement des fonds du pays.
C'est-à-dire parce que quand on ramène l'argent au pays, en fait, l'argent, on est toujours propriétaire.
Absolument. Mais dans ce cas-là, quand vous menez l'argent au pays, l'argent est vôtre, donc c'est légal.
C'était Isaias Samakuvu, président de l'UNITA, le principal parti d'opposition en Angola.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Maroc, la condamnation des meneurs du Irak, le mouvement de protestation qui a agité le Nord en 2016-2017, a suscité des réactions d'incompréhension et d'indignation dans le royaume. Claire Morin-Gibour a joint hier le journaliste Brahim Mohlis pour lui demander quelle était l'atmosphère dans le royaume chérifien.
On n'attendait pas qu'il y ait un verdict aussi lourd que ça. Donc c'est pour ça que la réaction a été très présente. Soit fait des communiqués à travers des organisations auxquelles il appartient, des ONG, même des avocats qui ne défendent pas les personnes qui sont mises en cause dans cette affaire. On fait des communiqués, on fait des articles, on fait des chroniques. Des citoyens ont manifesté hier juste après l'annonce du verdict. Des gens sont allés contester devant la prison où sont détenues les personnes condamnées. Il y a eu hier deux manifestations à Casablanca et à Rabat, une à Casablanca dans une place très connue et à Rabat devant le Parlement. Donc il y a une panoplie de réactions de la part des gens sans parler de ce qui se passe sur les pages Facebook, les réseaux sociaux en général. Même partis politiques ont vétusté. On n'a pas vu une réaction aussi rapide que ça de la part des partis politiques marocains. Plusieurs formations politiques ont fait des communiqués pour appeler un peu à revoir ne serait-ce qu'on appelle la gravité de ce verdict.
À votre avis, que va-t-il se passer dans les prochains jours?
Justement, c'est la grande crainte, c'est qu'il y ait une réaction qui s'amplifie, que les gens sortent dans la rue pour contester la gravité de ce verdict, parce que surtout on entend parler maintenant de ce qui se passe à Al-Fatima, aussi à Jarada, parce qu'en guise de préparation de l'autre procès des gens qui ont été détenus dans le cadre des procès de Jarada, les gens sortent à Oujda, dans la région où se trouve Jarada, et aussi à Al-Husseima et Nador. Donc la crainte, c'est qu'il y ait d'autres manifestations et qu'il y ait une confrontation avec les forces de l'ordre. C'est la grande crainte.
Est-ce que vous pensez que l'on peut espérer une grâce du roi?
Oui, là aussi, c'est une alternative qui était attendue d'ailleurs depuis le démarrage du procès. Mais est-ce que ça va avoir lieu? Parce qu'en général, la grâce n'intervient qu'après la fin du procès, de son processus, et que les décisions prises aient atteint l'autorité de la chose jugée. Donc il faut attendre que le procès se termine pour qu'il y ait une grâce dans ce sens-là.
Mais le procès est terminé, là?
Non, c'est en première instance. Il va y avoir l'appel. Donc ce sont des décisions qui ont été prises en premier degré, donc il faut attendre l'appel.
Notre confrère Brahim Mohlis se joint au Maroc. À Dakar, des milliers de personnes s'étaient rassemblées hier à la place de la Nation pour regarder le match Sénégal-Colombie du groupe H. À leur grande déception, et vous le savez déjà, le Sénégal a perdu la chance d'aller en huitième de finale. Aucune équipe africaine n'a pu franchir le cap du premier tour. Sur place, reportage de notre correspondant Seydina Abagay.
place de la nation, les supporters étaient relativement confiants et bouillants après une première période parfaitement maîtrisée par les Lions. Une prestation collective jusqu'alors satisfaisante pour les fans de l'équipe nationale du Sénégal, comme l'indique Abdoulaye Ba Traoré.
Bon, d'après les gars, après une première mi, bon, on est satisfait de nos Lions. Bon, ils ont produit de très bons jeux, oui. Bon, ça reste que le but, bon, genre, on a eu au penalty, mais malheureusement, bon, l'arbitre n'a pas dit les gens, voilà. Oui, Yao Balde Keita a surpris tout le monde. Franchement, moi, je ne m'y attendais pas. Bon, je croyais que Yao n'était pas sûr, mais là, ce qui nous a, comment dire, produit en première mi-temps, franchement, très surprenant.
À la mi-temps, les supporters, comme Seydina Oumar, se projetaient déjà sur un éventuel huitième de finale.
On attendait Yao Balde qui est venu et qui a donné tout son talent. Vraiment, on est très satisfait. Ouais, fantastique, vraiment, fantastique. On est derrière eux et on les supporte de bout en bout, de A à Z, à 200%, on va qualifier, Inch'Allah, et aller battre l'Angleterre ou le Belgique, Inch'Allah.
Les ambitions affichées par les Sénégalais seront douchées par le but de la Colombie à la 74e minute. Un but qui a plombé les chances de qualification du Sénégal et plongé dans la tristesse les supporters présents à la fin de zone. Fatima Wan en perd ses mots.
Si on peut dire à 60%, insuivant la vie, la défaite vient à chaque moment qu'on n'attendait pas. Nous avons bien joué, mais plus la défaite vient, ça vient. Personne n'y peut rien. Mais nous prions pour notre Lyon de faire la mieux la prochaine fois. Bien continuer comme ça, ça ira là pour la prochaine fois, Inch'Allah.
Malgré l'élimination, l'équipe du Sénégal a un avril radieux devant elle, d'après Djibi Diallo.
Il faut quand même essayer de gérer la défaite avec philosophie. Bon, nous tous, on aurait souhaité vraiment se qualifier, mais les choses étant ce qu'elles sont, donc moi je me dis qu'il faut savoir gagner dans la dignité, mais aussi perdre dans la dignité. Bon, non, Lyon n'ont pas démérité, on est une équipe jeune, et vraiment, moi je dis chapeau bas à cette équipe, et vraiment, il faut quand même leur donner la chance quand même de se préparer encore pour d'autres séances.
À Dakar, l'euphorie qui entourait une éventuelle qualification du Sénégal a laissé place à une tristesse totale. Les supporters sont déçus par l'élimination, mais reste optimiste quant à l'avenir de cette jeune et talentueuse équipe sénégalaise. À Dakar, Seydina Aba Gueye pour VOA Afrique.
VOA Afrique, votre santé, votre avenir.
Un magazine sur votre bien-être. Vous avez des questions sur votre santé? Vous voulez prévenir vos maladies? Les soigner à temps?
Quelle alimentation adopter pour une vie saine? Comment bénéficier des programmes initiés par vos gouvernements ou des ONG dans vos pays?
Suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique avec Rosine Mounézégo
et Mohamedou Oumpa, samedi à 8h30, temps universel.
Votre santé, c'est votre avenir.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
I'm not afraid of the dark.
Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.